Radio Barque, contre-regard sur l'actualité narbonnaise. Radio Barque, notre 29e pour la 5e saison. Bonjour Michel.
Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Bernard Devic.
Bonjour.
Maire de la commune de Cave, puisqu'il y a une commune qui s'appelle Cave dans l'Aude. Et vous êtes aussi, et peut-être ça prendra la plus grande partie de notre temps pour l'interview, président du PNR, le parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, pour ne rien oublier. Donc une institution importante qui couvre une bonne partie du territoire sur laquelle on va revenir. Le sommaire de Michel porte sur, alors, question, suppression de l'ENA, qu'est-ce que ça veut dire? Dans une deuxième partie, histoire de petits trains, tu vas revenir un peu sur le sort de nos petits trains régionaux, le train jaune dans les Pyrénées-Orientales et le bise minervois en Narbonnaise. Et puis, un sujet forcément sur le Racing, puisque ça, c'est une saga sempiternelle. Les tonneaux prendront-ils le pouvoir au RCNM? Rien que le titre déjà donne soif de savoir. On y reviendra. Mais la suppression de l'ENA, c'est le truc spectaculaire annoncé par le président Macron. Alors évidemment, ça fait couler énormément d'encre, on s'en doute.
Oui, spectaculaire, même si c'est pas forcément le plus coûteux pour le budget de l'État, puisqu'il a, il a annoncé quand même une série de mesures qui vont coûter 17 milliards d'euros.
Ah oui, en fait, oui, hein, oui. Oui, mais qui ne concerne pas que les énarques.
Exactement.
Non. Beaucoup plus de monde.
Pourquoi cette chronique? Mais Jean-Claude, pour une raison simple, c'est que dans ce pays, comme tu le sais, je l'ai même entendu ici, on aime bien trouver des boucs émissaires, en fait, à tous les maux dont souffre ce pays. Alors, ça peut être, selon la conjoncture, les circonstances, l'Europe, la ville Europe, enfin, qui est la source de tout.
L'Europe, c'est un bouc émissaire
traditionnel, répétitif. Mais aussi l'ENA, en fait. Combien de fois ai-je attendu, ce pays, va mourir à cause de ces affreux technocrates produits par une école, qui s'appelle l'ENA, et qui gouverne tout, impose ses normes, sa façon de penser. Enfin, bref, j'arrête effectivement l'énumération, car elle serait fort longue. Si je puis dire, quelle satisfaction pour toutes ces critiques-là de l'ENA, puisque le président Macron a annoncé effectivement lors de sa conférence de presse qu'il allait la supprimer.
Oui, oui.
Mais que faut-il entendre par suppression de l'ENA en question? Car enfin, Jean-Claude, loin du président, l'idée, me semble-t-il, comme de tous les Français normalement constitués, de penser que nous n'avons pas besoin d'une élite administrative dans ce pays pour faire tourner la machine administrative de l'État.
Oui, il en faut. Il n'a pas dit ça, d'ailleurs.
Il n'a pas dit ça. Il en faut. Donc, conclusion logique. Comment, si on supprime l'ENA, c'est la seule question qui est posée, comment former l'élite administrative de ce pays, puisque l'ENA, apparemment, la formerait très mal. Et à quelles conditions?
En créant une école nationale d'administration, par exemple.
Non, pas forcément. On n'a pas encore trouvé le nom, mais je reviendrai en fin de chronique pour ironiser sur celui qui est chargé de faire justement des propositions en la matière. Mais
voilà. Est-ce qu'on pourrait dire un mot quand même au début? L'idée de base de l'ENA en soi n'est pas mauvaise.
L'ENA a été créée au lendemain de la guerre. Au lendemain de la dernière mandale par Monsieur Debré, qui était le premier ministre de l'époque, et qui avait constaté, mais comme d'ailleurs ses prédécesseurs de la 4e République, que l'organisation à l'époque de la haute administration de l'État en grand corps, chaque grand corps avait son mode de sélection particulier, était une machine, était des filières qui attribuent effectivement des postes de haute responsabilité à une même catégorie sociale, de la haute bourgeoisie parisienne, qui cooptait.
Oui.
Pratiquement.
Donc, l'idée.
Tous les grands corps de l'État.
Voilà. Donc, l'idée était de mettre fin à ça.
L'idée, c'était de mettre fin à ça et d'homogénéifier, le mode de recrutement en créant une école, l'ENA. J'ouvre une parenthèse d'ailleurs. Cette école a été créée pour une raison que peu de gens savent en réalité, c'est que quand Debré a proposé la formation de cette élite administrative à l'université, l'université française, toujours soucieuse, effectivement, de ne pas se mêler de former pratiquement, des ingénieurs ou où le fonctionnaire a dit non, pas pour nous, non, l'université, etc. Mmh. Donc, il a été obligé de créer cette école, en fait, qui, par un mode de recrutement par concours, hein, recrute, en fait, un certain nombre de garçons, en fait, et de filles, en fait, qui passent un concours, c'est vrai, pas facile, et qui ensuite, selon le rang de classement, ben, permet, en fait, à ces jeunes garçons et jeunes filles, ben, d'être soit d'entrer dans le corps des administrateurs civils, soit dans des grands corps.
Ce qu'on appelle les grands corps.
Les grands corps, oui, comme l'inspecteur des finances, la Cour des comptes, etc.
Donc, l'idée est bonne au démarrage. Maintenant, le résultat et surtout ce qu'il en est advenu dans le temps.
La critique, effectivement, qui est faite aujourd'hui est en partie fondée. Première critique, ben, l'ENA n'a pas réussi, comment dirais-je, à modifier,
à démocratiser
sensiblement, hein, ben, les caractéristiques socioculturelles des gens qui réussissent à ce concours et qui font cette scolarité. On y trouve pratiquement des jeunes garçons et des jeunes filles provenant des mêmes milieux, à la fois sociaux, géographiques, des mêmes écoles.
Ouais, ça, c'est avéré. On peut pas dire le contraire.
Voilà, pour aller vite, c'est Paris, Sciences Po, en passant par l'école d'Alsacienne, qui est une école privée, et puis, effectivement, les grands corps ou pas, peu importe. Donc ça, c'était une critique justifiée. Bon, première remarque. Deuxième remarque, hein, j'ajoute un petit bémol quand même. En 81, Anicet Le Pors, qui était à l'époque le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, communiste d'ailleurs, avait ouvert un troisième concours. C'est-à-dire, justement, pour remédier, en fait, à cette homogénéité sociale, en fait, et politique, hein, forcément.
Ça a fait flop.
Troisième concours. Non, ça marche, mais bon, le nombre d'accès à cette troisième voie est très peu élevé.
Voilà.
Et elle permet effectivement à des militants associatifs et à des élus de passer un concours dit spécial, mais qui a été... Et c'est Anicet Le Pors lui-même qui l'a écrit récemment dans l'Humanité, je cite ce journal, je cite rarement, qui a été sabordé par Michel Rocard, qui était le ministre qui a suivi et qui a sabordé effectivement la dynamique qui avait été engagée à l'époque. Donc critique justifiée sur les caractéristiques.
Sur les origines sociales des élèves de l'ENA.
Deuxième critique, le fait qu'à 25 ans, quand on est dans cette école, et selon le rang de classement à l'ENA, eh bien, on bloque une carrière. C'est-à-dire que si à 25 ans, ben, on ne réussit pas, on n'est pas dans les trois premiers ou les quatre premiers pour intégrer l'inspection des finances, la Cour des comptes ou le Conseil d'État, on est administrateur civil, et puis on finira administrateur civil, point au mieux, chef de bureau, en fait, hein, dans un ministère, ou si par copinage politique, on se retrouve dans un cabinet, et ensuite on est nommé dans un grand corps. Donc là aussi, deuxième critique, il n'est pas normal qu'à 25 ans, on bloque une carrière comme
envie de dire, c'est bien français, cette manière d'intellectualiser les choses. Ça ne se passe pas dans tous les pays de la même façon.
Du coup, l'idée en fait, qui est lancée en fait, par Macron, en fait, mais qui n'a pas été très précisée par lui, c'est en tout cas pour ses emplois de direction, qui en plus dans les années 30 sont cooptés par les grands corps, c'est de dire ben, pour casser ça, eh ben, on va ouvrir en fait, le recrutement de ces grands postes en fait, de direction dans les administrations centrales à du privé, c'est-à-dire des contractuels, des gens qui sont dans le privé et qui effectivement occuperont des emplois de direction dans l'administration française, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais le problème surtout de rémunération, parce qu'entre la rémunération d'un directeur de l'administration centrale au ministère de l'Industrie, que je connais un petit peu, et puis un directeur général d'une grosse boîte, enfin, je dis n'importe quoi, moi, Danone, en fait, ou Saint-Gobain, les rémunérations ne sont pas les mêmes. Donc là, il faudra modifier sensiblement les conditions de rémunération, et je ne vois pas comment. Enfin, troisième, autre critique, le fait que aujourd'hui on peut pantoufler. Alors, qu'est-ce que c'est que le pantouflage?
Oui, alors faut l'expliquer parce que ça, à mon sens, c'est un des points essentiels des critiques qu'on peut adresser à l'ENA et aux énarques après l'école.
Oui, mais pas aux énarques en général, à cette catégorie d'énarques qui sont dans les grands corps et qui décoptent, hein, Cour des comptes, Conseil d'État, en fait.
Oui,
hein,
ben, ceux qui sont la partie visible de l'iceberg.
Les premiers, c'est la botte, quoi.
Mais ceux qui tiennent tous les pouvoirs en France, il faut le dire.
Qu'est-ce que c'est que le pantouflage? Le pantouflage, c'est la procédure qui permet, en fait, à des énarques qui sont rentrés dans des grands corps et qui ont eu ensuite des emplois de direction en centrale ou dans des emplois de cabinet, après un temps passé dans l'administration, d'aller bosser dans le privé. Et retour au public s'il y a un problème de carrière dans le privé.
Voilà. D'une part, donc, ça veut dire qu'ils sont un petit peu en pantoufle.
ce qui veut dire que, par exemple, je ne sais rien, je suis en centrale, je vais dans le privé, je me plante dans le privé, comme je suis en disponibilité, je retourne dans mon administration et je retrouve mon emploi. Bon, pas effectivement mieux, mais voilà.
Une collusion parfois, et la suspicion ou la réalité d'avoir aidé telle ou telle entreprise on était dans le cabinet.
C'est plus possible. Non. Là, je te coupe tout de suite. Il y a effectivement une commission de déontologie qui permettait à l'époque ce genre de choses, mais qui ne permet plus.
Non, et à quelle époque,
Michel? Cela dit, mais ça remonte à 10 ans pratiquement, cette commission. Non, il faut être honnête quand même. Mais ça ne diminue pas la critique que je viens de faire à l'instant. D'autant que dans cette affaire, le sentiment qui est créé, comme tu viens de faire remarquer, c'est une espèce d'oligarchie public-privé, c'est-à-dire que on y met voilà
bon une vraie collusion
voilà c'est dire, les mêmes hein. qui tiennent l'administration tiennent aussi le secteur privé ou les grands groupes
les grands groupes
qui étaient nationalisés à l'époque et puis bon tout ça gouverne la France quand même en fait une dernière petite remarque pour les gens qui connaissent mal ce milieu contrairement à ce qu'on croit ce sont pas les énarques qui pantouflaient entre l'administration et les grandes entreprises pas du tout c'était effectivement le corps des mines c'est-à-dire les ingénieurs du haut de la botte eux aussi qui sont dans la même situation les gens des grands corps administratif. Donc tout ça, effectivement, mérite d'être pris en compte et d'être critiqué, d'être amélioré. Et la proposition qui est faite par Macron n'est pas donc de supprimer l'ENA, mais de modifier considérablement les conditions de recrutement, de formation et de statut de ces hauts fonctionnaires. Alors, dernière remarque amusante, il confie la mission à un nommé Frédéric Thiliez, qui lui, effectivement, est le prototype même de celui qui a pantouflé et qui est chargé de faire des propositions. J'espère qu'effectivement, ce monsieur aura la capacité de prendre de la distance par rapport à sa propre carrière et d'être relativement, pour ne pas dire très innovant.
Voilà, ce qui sera difficile. Le gros problème étant de mettre fin à l'impression, je dis bien l'impression qu'on a d'une mafia qui gouverne la France, même si le terme est parfois un peu fort.
N'exagérons pas.
C'est un clan. Pas un clan, ni mafia.
C'est un mode de fonctionnement.
Michel, tu iras expliquer ça à beaucoup de gens. Je te souhaite bien du courage et on marque une première pause.
Sans aucun problème.